carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Rembrandt et la figure du Christ au Louvre jusqu'au 18 juillet prochain. Une exposition envoûtante où l'on contemple un Christ à nul autre pareil. Paris, Philadelphie et Détroit mettent en scène Les Pèlerins d'Emmaüs, La pièce aux 100 florins et une série de 7 visages peints réunis pour la première fois depuis 350 ans. 80 peintures, estampes et dessins entourent ces joyaux. En choisissant de représenter le Christ sous les traits, sans doute, d'un jeune juif de son temps, Rembrandt donne, dans les années 1640, sa réponse à la question « Mais à quoi donc pouvait vraiment ressembler le Christ ?» Blaise Ducosse, conservateur, département des peintures au musée du Louvre et commissaire de l'exposition parisienne, et Jérôme Prieur, écrivain et cinéaste, sont avec nous pour évoquer la figure du Christ et pour évoquer aussi le cas Rembrandt. Bonjour Blaise Ducosse.
Bonjour et merci de votre invitation.
Bonjour Jérôme Prieur.
Bonjour.
Merci aussi à tous deux d'être venus à Canal Académie. Jérôme Prieur, on a tous en mémoire votre Corpus Christi, le film que vous avez réalisé pour Arte avec Gérard Mordillat. Votre travail autour des origines du christianisme a donné lieu à une immense série sur Arte, Corpus Christi, je viens de le dire, l'origine du christianisme et l'Apocalypse. Et puis dernièrement, au musée du Louvre, en avril dernier, vous avez donné une conférence intitulée « Jésus sur le vif ». Alors, Corpus Christi, Jésus sur le vif, superbe titre. Que voulez-vous dire par Jésus sur le vif? Que savons-nous? Que savez-vous de l'image de Jésus?
Oui, vous avez raison de dire que savons-nous de l'image de Jésus, parce que il faut bien avoir à l'esprit le fait que le Christ n'a jamais existé, aussi choquant que ça puisse paraître. Je veux dire par là que c'est une figure théologique. C'est la façon dont l'Occident chrétien, a transformé le visage d'un homme obscur, comme disait Voltaire. Jésus, que savons-nous de lui? Ce que nous savons de lui, nous le savons surtout, je vais vous faire une révélation, nous le savons surtout grâce à la peinture. C'est-à-dire que la peinture nous a mis dans la mémoire, mis dans les yeux, une quantité incroyable d'images, de représentations. Pourquoi? Parce que socialement, nous savons des choses sur Jésus, peu de choses, mais plus quand même que beaucoup de personnages de l'Antiquité. Mais surtout, quant à son aspect physique, son apparence, alors là, c'est le vide absolu. Nous ne savons rien, nous ne savons pas à quoi ressemblait Jésus. S'il était grand, petit, maigre, gros, difforme, nous ne savons pas.
À partir de quel siècle a-t-on peint Jésus?
On représente Jésus, d'abord il y a les mosaïques, à partir du moment où le christianisme devient une religion, ce qui prend un certain temps, et surtout devient la religion de l'Empire romain. Donc c'est pas avant le 5e, 6e siècle que nous avons des représentations de Jésus, mais qui n'ont rien d'historique et d'authentique. Et juste pour passer la parole à Blaise Ducosse, je veux dire que dans l'exposition, dans cette magnifique exposition du Louvre, il y a une toile qui me touche beaucoup, qui est la petite toile qu'on peut voir au Louvre en ce moment et qu'on peut voir sinon au musée Jacques Marandré, qui représente les pèlerins d'Emmaüs. Elle n'est pas forcément la plus extraordinaire des toiles de Rembrandt, ni la plus extraordinaire des toiles.
Mais c'est la silhouette de Jésus qui est la plus extraordinaire.
Voilà, Jésus est représenté en ombre chinoise, en silhouette. La lumière, c'est lui qui la projette sur ceux qui le regardent et qui sont effarés. Et le texte produit cet effet-là. Il projette une lumière, que l'on soit croyant ou pas croyant. Il projette une lumière dans laquelle nous nous projetons nous-mêmes, mais de Jésus lui-même, de Jésus en personne, de Jésus sur le vif. Et je dis, nous savons tellement peu de choses.
Blaise Ducosse, pourquoi, comment ce Christ de Rembrandt répond-il à une énigme tout en étant pétri de la tradition artistique? Parce que dans l'exposition, on voit Van der Wenden, sont évoqués aussi Léonard de Vinci, Mantegna, des gravures de Dürer, Rubens, pour ne citer que les plus grands. Quelles sont les innovations, les nouveautés, les émotions de Rembrandt? Mais avant de nous dire aussi quelles sont les circonstances de votre exposition, pourquoi une co-organisation avec les deux musées américains ? Je sens que vous avez envie de répondre à Jérôme Prieur.
Oui, en fait, c'est le mot, je voudrais juste revenir sur l'un des mots que vous avez prononcé, Jérôme, c'est ce mot de manque, hein, comme s'il y avait un manque de l'image de Jésus, comme si effectivement on était face à un vide, un silence assourdissant, et il y a besoin de combler ce vide pour donner un corps, donner une figure, un visage, une silhouette, et pour filer votre métaphore, une ombre portée aussi, c'est très important, une ombre d'un corps qui existe, à ce personnage qu'est Jésus, Jésus-Christ. Et dans l'exposition et dans l'art de Rembrandt en général, on sent hein, cette volonté effectivement de venir combler un manque. Mais alors, et c'est là la spécificité, l'originalité de Rembrandt, c'est que la façon qu'il a de venir combler ce manque, en fait pour lui c'est un retour aux sources. Et l'exposition, qui est une exposition sur un grand novateur qui prend position par rapport à la tradition, eh bien, elle met en évidence cette quête, cette volonté de revenir aux sources. Et c'est pour ça qu'il y a chez Rembrandt la possibilité d'un modèle, un modèle vivant qui aurait prêté ses traits au Christ et un modèle qui soit peut-être un juif.
Peut-être.
Oui, parce qu'il faut être quand même très prudent. Toutes ces choses sont arrivées il y a fort longtemps. Donc c'est un faisceau de faits, une convergence de probabilités, j'ai envie de dire, tout un ensemble d'indices qui nous incitent à penser, moi et plusieurs autres, et en particulier les collègues américains avec qui nous avons préparé l'exposition, qu'il s'agit sans doute d'un modèle juif. En réalité, il y a plusieurs manières d'aborder cette exposition et du coup de présenter la question de la figure du Christ chez Rembrandt. Mais d'entrée de jeu, je voudrais dire que cette affaire du Christ, pour Rembrandt, ça n'est pas l'une des nombreuses facettes de son art. Ça n'est pas un aspect parmi d'autres. On sait que Rembrandt est un grand portraitiste, par exemple. Il a d'ailleurs gagné beaucoup d'argent en faisant des portraits. On sait
avant
qu'il
de faire
a fait...
faillite, le pauvre homme.
Voilà, et c'est d'ailleurs... Bon, c'est toute une chaîne. Donc, il a gagné beaucoup d'argent en faisant des portraits. Il a fait des paysages. C'est aussi un grand graveur qui a expérimenté toutes les formes de techniques de la gravure que le XVIIe siècle pouvait lui offrir. Mais la figure du Christ, c'est son sujet favori. C'est son thème, c'est sa grande affaire. Rembrandt n'a eu de cesse depuis qu'il était tout jeune homme, hein, depuis qu'il avait une vingtaine d'années, d'affronter, de reprendre le problème à zéro de la figure du Christ. Et le dessin marouflé sur panneau auquel on faisait allusion, l'œuvre de Jacques Marandré.
Le repas d'Emmaüs.
Effectivement, le souper à Emmaüs, le Christ à Emmaüs avec les pèlerins.
Qui est de 1629, je crois.
Oui, environ. Donc c'est une œuvre qu'il a faite quand il avait environ 23 ans. Un tout jeune homme. Donc il y a aussi l'idée du jeune prodige.
Qui est pétri de Bible. On sent qu'il est pétri d'émotions religieuses.
Oui, alors c'est un lecteur assidu de la Bible. C'est bien plus qu'un illustrateur. Ça, c'est une chose qu'on n'a jamais tort de répéter. Il ne se contente pas de montrer ce que disent les Écritures. En fait, c'est quelqu'un qui passe en permanence au tamis de son inventivité le texte. Et donc, il procède par extraction, par juxtaposition, par fusion, on a envie de dire. Il rapproche des épisodes parfois éloignés les uns des autres. Il y a des simultanéités dans ces images qui n'ont pas forcément lieu dans le récit biblique. Et surtout, il isole tel ou tel épisode et il le monte en épingle, si vous voulez, il le met en évidence. Et du coup, cet épisode qui jusque-là était au second plan, à l'arrière-plan, devient prééminent, prend une saillie, un relief extraordinaire. Et ça nous oblige à revisiter, à relire, en fait, le texte biblique. Et il y a ce jeu de miroir en permanence chez Rembrandt.
Quels sont les thèmes ? Nous venons de parler d'Emmaüs. Quels sont les autres thèmes que sa fantaisie, sa recherche et son émotion ont mis en exergue ?
Alors, d'une façon générale, Rembrandt, c'est quelqu'un qui ne s'interdit aucune exploration. Donc, bien sûr, il a beaucoup travaillé les représentations de l'Ancien Testament. Mais pour ce qui nous occupe aujourd'hui, le héros du Nouveau Testament... En fait, c'est toute la trame narrative, hein, toutes les possibilités, j'ai envie de dire, dramaturgiques qu'offre le texte biblique dont il joue. Et par conséquent, vous avez toute l'enfance du Christ, vous avez le ministère de Jésus, vous avez les scènes publiques hein, où Jésus apparaît face à un auditoire, confronté aussi parfois à une foule hostile. Vous avez des épisodes plus intimes, des moments où il est... en petits groupes avec Marthe et Marie, par exemple. Et puis, vous avez la Passion et ensuite toutes les scènes de Révélation. Mais notre exposition, ça n'est pas un florilège de représentations du Christ. C'eût été une possibilité, mais en fait, ce n'est pas du tout ça qu'on a fait et ça nous aurait emmené beaucoup plus loin qu'on est allé. Nous, nous avons choisi un angle d'attaque qui est de réfléchir à un problème, une énigme qui se posait et qui, je crois, j'espère, a trouvé partiellement sa réponse dans cette exposition et qui est la suivante. Au XIXe siècle, on a publié l'inventaire des biens de Rembrandt qui avait été établi au moment où celui-ci a fait faillite. Donc c'est une histoire tragique puisque l'artiste s'était ruiné à force de collectionner des objets d'art, des œuvres précieuses.
Oui, parce qu'il faut bien dire que Rembrandt était un esprit encyclopédique et on parlera aussi de cette caractéristique des provinces unies du XVIIe qui ont peut-être joué pour la représentation de l'image du Christ.
Oui, et alors donc effectivement, on a publié cet inventaire et cet inventaire mentionne donc parmi les possessions de Rembrandt dans sa maison à Amsterdam des représentations du Christ. Et parmi elles, explicitement sont notées des représentations du Christ, ouvrez les guillemets, d'après nature.
Fermez alors, les guillemets. Sur le vif, sur le vif pour Jérôme Prieur et d'après oui. nature pour Blaise Ducosse.
Voilà, et alors c'est cette mention improbable, complètement paradoxale au XVIIe siècle en Hollande, qui a plongé tous les spécialistes dans l'expectative, pour ne pas dire plus, à tel point que certains éditeurs de ces documents rembrandtesques au XIXe siècle ont biffé la mention d'après nature, et on avait simplement une figure du Christ par Rembrandt. Et c'est seulement au XXe siècle qu'a fait surface sur le marché de l'art, un lot, une série, un groupe de têtes, de bustes, alors de ce qui est au premier abord un jeune homme, brun, donc vu jusqu'aux épaules, dans diverses attitudes, avec un cadrage très serré, qu'on identifie immédiatement comme Jésus. Et ce personnage, il est, quand on voit la série, et c'est le cœur de l'exposition au Louvre, visiblement une personne bien réelle, bien distincte. C'est l'idée qu'il y a un modèle vivant. Un modèle vivant qui a posé dans l'atelier de Rembrandt à Amsterdam. Et donc, en mettant en regard ces œuvres nouvellement redécouvertes au XXe siècle, essentiellement dans l'après-guerre, et la mention jusque-là énigmatique, tout à coup on s'est dit « Mais oui, en fait, ce Christ d'après nature, c'est cela. C'est un Christ peint, esquissé, dessiné, d'après un modèle. »
Alors, qui serait ce modèle? Ou quelle est la figure qui représenterait ce modèle?
Alors, ça c'est, il faut bien le dire, quand même une énigme appelée à le rester. C'est au XIXe siècle qu'on a des renseignements sur les modèles qui posaient dans les ateliers, notamment les ateliers de l'Académie. Mais dans les époques plus anciennes, c'est extrêmement rare. Il y a parfois un nom, mais enfin, c'est rarissime. Et là, on ne sait pas du tout, on n'a pas pu, et sans doute ne saura-t-on jamais, identifier la personne. En revanche, ce qu'on pense, et c'est là l'ensemble de faits, d'indices qui entrent en scène, ce qu'on pense, c'est que c'est sans doute un juif de la communauté juive d'Amsterdam.
Car Rembrandt habitait non loin de la communauté juive d'Amsterdam.
Alors, il habitait au cœur du quartier juif. Et je dis quartier, hein, ce n'est pas un ghetto. C'est un quartier ouvert sur la ville, hein, où l'on va et vient, où on circule tout à fait librement. Et qui, d'ailleurs, est peuplé par des Amstello-Damois qui ne sont pas juifs, qui sont d'autres communautés, notamment des protestants, mais pas seulement. Et ce phénomène, il est décisif, parce que la communauté juive, hein, Amsterdam, c'est la plus importante d'Europe du temps. Les séfarades au XVIe, à la fin du XVIe siècle, puis au XVIIe, les Ashkénazes, venant eux d'Europe centrale, ont afflué vers la Hollande, en fait cette terre de refuge, cette terre d'asile, cette terre de tolérance, où d'ailleurs d'autres trouvaient refuge, comme Descartes par exemple, notre grand philosophe qui n'a pu écrire et publier ses textes que sur des presses hollandaises. Et c'est là donc que cette communauté a fleuri et s'est développée. Et les Hollandais en ont tiré parti d'ailleurs, à cause du réseau que cela leur offrait, leur grand réseau international, notamment méditerranéen. Et donc Rembrandt, il est au cœur de ce quartier juif. En fait, ce sont ses voisins. Donc il y a une proximité physique. Mais il y a aussi une proximité intellectuelle et une proximité presque affective, sans exagérer les choses, et qui tient à l'intérêt général en Hollande, et en particulier l'intérêt des érudits protestants, de tous les théologiens, mais en général vraiment, les Hollandais au XVIIe siècle, ont un intérêt fervent, profond pour le texte biblique. Et quand je dis ça, je veux dire pour l'établissement précis du texte. La grande affaire des protestants hollandais, c'est l'établissement conforme du texte. Il faut que ce texte, il soit bien précis, il repose sur un corps scripturaire bien défini et que les traductions soient au clair. Et donc, ces protestants qui travaillent sur ces questions sont amenés à se familiariser avec toutes les langues anciennes du bassin méditerranéen, et notamment l'hébreu, l'hébreu ancien. Proximité avec l'hébreu ancien, proximité avec la culture juive antique, les juifs qui vivaient sous domination romaine au 1er siècle de notre ère, et du coup, proximité avec ceux qui en sont les descendants directs dans la conception des hommes du XVIIe, et la boucle est bouclée, les habitants juifs d'Amsterdam.
Alors, Rembrandt, qui n'a pas voulu voyager, je crois qu'il a choisi de ne pas voyager, en fait, voyageait sur place, dans son atelier ou dans son quartier.
Rembrandt, effectivement, c'est quelqu'un qui n'a pas fait le voyage d'Italie. Il n'est pas allé vers le sud, il n'y a pas d'héliotropisme de Rembrandt. Mais c'est quelqu'un qui avait là, sous les yeux, toute l'Italie, à cause du marché de l'art hollandais. C'était le premier marché de l'art en Europe, tout simplement parce que la Hollande, c'est le poumon économique européen au XVIIe siècle. C'est la plaque tournante des échanges. Donc, bien sûr, il y en a d'autres, Venise, par exemple. Mais au XVIIe siècle, contrairement à la Renaissance, c'est la Hollande, le pôle économique de l'Europe et même du monde entier en raison de leur empire maritime. Et donc, afflue à Amsterdam un ensemble, mais dont on n'a pas idée, de richesses, de produits, de personnes, et notamment de produits orientaux. Donc, il a à la fois les œuvres d'art italiennes, européennes en général, les produits orientaux. Il vit dans cette communauté juive. Et ça, c'est très important parce que pour Rembrandt, j'y insiste, ses voisins, ses juifs, ce sont les descendants directs de ceux à qui Jésus prêchait. Ce sont les descendants directs. Donc nous, on aurait une conception sans doute plus arborescente du peuplement juif en Europe au cours des siècles. Mais pour un Hollandais du XVIIe, c'est tout simple. Il y a là des personnes qui sont en droite ligne issues des contemporains du personnage historique, de la figure historique du Christ. Et du coup, on comprend le raisonnement. Comment voulez-vous faire mieux pour représenter un Christ qui soit véridique, une vraie figure du Christ, que de prendre un jeune homme juif de cette communauté? Mais oui, il ressemble vraiment au sens propre, il a l'apparence de Jésus, vous voyez, des contemporains de Jésus. Et donc, il y a une espèce de logique de raccourci historique, bien évidemment. C'est un raccourci historique, mais il est saisissant. Et il explique, à mon sens, cet intérêt intense de Rembrandt et de ses élèves pendant une petite dizaine d'années pour cette question du modèle vivant pris dans la communauté juive, avec, à terme, l'idée de faire des figures du Christ qu'on puisse injecter dans les grands tableaux d'histoire.
Il faut insister sur la puissance dramatique et plastique de cette représentation du Christ chez Rembrandt. Il y a même quelque chose qui me touche, moi, particulièrement, comme cinéaste, comme amateur d'images, de photographie. C'est, je ne sais pas combien il y a de portraits, 7, non ?
Oui.
Bon, 7, enfin bon, c'est un hasard peut-être qu'il y en ait 7. Mais
c'est un puzzle reconstitué.
Bon, c'est un puzzle reconstitué. Voilà.
Mais ce n'est pas symbolique.
Oui, ce n'est pas symbolique. Voilà. Non, mais ne nous égarons pas. Ce que je trouve extraordinairement beau, c'est qu'on a une série et que ce personnage qui sert de modèle, d'une certaine façon, on est derrière Rembrandt, enfin dans l'atelier du peintre. On voit ce jeune homme qui pose et qui est saisi à différents moments. À la fin du 19e, les précurseurs du cinéma vont beaucoup s'occuper de ce qu'on appelle la chronophotographie. Étienne Jules Marais, Edward Muybridge, un Français, un Américain, vont représenter des êtres humains à différents moments. Et il y a déjà ça chez Rembrandt, enfin, d'une façon très archaïque, cette succession de points de vue à peine différents, ce regard photographique, je trouve, vraiment. Il y a ça, ce que je voulais rappeler, mais surtout, je veux insister sur la dimension presque polémique, on pourrait dire, de cette proposition de Rembrandt. C'est-à-dire que, certes, Rembrandt vivait au milieu de la communauté juive d'Amsterdam, mais montrer Jésus, non pas comme un héros arien, comme souvent, comme beaucoup, comme majoritairement, la peinture, jusque-là, l'a représenté, mais comme un homme brun, de type sémite, disons, enfin, même si je partage tout à fait les précautions que Blaise Ducos emploie à l'instant, ce qui concerne la judaïté de ce personnage. Mais il y a une profonde humanité et surtout une volonté de réinscrire d'une certaine manière le personnage de Jésus dans le judaïsme. Alors dans le judaïsme du temps de Rembrandt, mais les peintres ont toujours fait ça, ils ont toujours joué du décalage des époques, mais je dirais fondamentalement dans le judaïsme. Parce que c'est la grande question du christianisme, c'est-à-dire le christianisme est né du judaïsme. Jésus, Marie, les disciples sont juifs, les premiers chrétiens sont juifs, uniquement juifs. Et donc, d'une certaine façon, montrer que Jésus n'est pas un héros blond, mais un petit homme brun, enfin disons, c'est une façon de prendre sa place dans un débat philosophique, idéologique, qui occupe les peintres depuis fort longtemps et qui... Alors là, je pense, c'est pas tout à fait le problème que soulève Rembrandt, mais je pense à un grand historien américain, Leo Sternberg, qui a écrit un livre que je trouve remarquable, au titre un peu provoquant, qui est paru il y a quelques dizaines d'années chez Gallimard, qui s'appelle « La sexualité du Christ et son refoulement dans l'art occidental ». Et dans ce volume très savant, ce parcours de l'histoire de la peinture, Leo Sternberg montrait bien que la question de la judaïté de Jésus était cruciale pour les peintres, puisque si l'on représentait Jésus crucifié nu sur la croix, on se trouvait, en tant que peintre, pas en tant que fidèle, en tant que croyant, en tant que peintre, on se trouvait confronté à une question redoutable. Si Jésus est juif, il doit être circoncis. Et donc, comment montrer aux chrétiens que leur héros, comme ça, est un juif? Et donc, le livre de Sternberg soulève plusieurs points, mais notamment celui-là. Et Rembrandt n'en est pas encore là, hein, je dirais, ou n'en est plus là. Mais en tout cas, je pense qu'il n'y a pas seulement une volonté de réalisme. Quelque chose dépasse Rembrandt dans cette volonté de représenter à travers un modèle juif le corps de Jésus.
Oui, c'est-à-dire que l'esprit de liberté de Rembrandt, c'est une chose intellectuelle, mais là, c'était son cœur, c'était sa spiritualité qui était touchée par cette représentation-là.
Bah, c'est des problèmes très pratiques que se pose un peintre. Comment représenter quelqu'un que personne n'a jamais décrit? Voilà, c'est ça. Et donc, les peintres, jusqu'au XVIIe siècle, jusqu'à Rembrandt, et puis ensuite aussi, se sont tous posés cette question.
Oui,
et donc,
Rembrandt...
la tentation, c'était plutôt, je pense, de répéter... Les peintres ont toujours inventé, mais certains ont répété. Et donc là, on est dans un moment de fracture où quelqu'un ose une autre représentation de ce personnage essentiel pour l'Occident.
Autrement dit, c'est extrêmement audacieux.
Voilà.
Il y a une audace folle.
Mine de rien.
Alors, comment dire? Dans l'exposition, c'est vrai, peut-être qu'on a tendance à l'oublier, il y a une espèce de grande fluidité. Il y a une logique de l'œuvre de Rembrandt. Et donc, quand on déploie l'éventail, tout se met en place, on voit les repères chronologiques... Tout fait sens. Mais bien sûr, il faut imaginer ce corps, vraiment cet ensemble d'œuvres, eh bien, pris dans ce contexte et dans cette grande tradition, c'est un météore. C'est quelque chose d'extrêmement surprenant.
Pour son époque.
Alors, dérangeant, blasphémateur, étonnant. On peut imaginer différents qualificatifs, mais à la base, il y a une audace. Et cette audace, je pense qu'elle tient tout simplement au fait que Rembrandt, c'est quelqu'un qui est un grand chercheur. Je veux dire, quelqu'un qui ne se satisfait pas des formules établies, non seulement vis-à-vis de lui-même, au sens où on pourrait dire que c'est un insatisfait perpétuel qui cherche à se renouveler, mais surtout qui n'accepte pas la majesté prévisible du Christ. Cette majesté prévisible de la tradition. Il y a une beauté du Christ traditionnel. Hein, ce grand corps, beau, harmonieux, puissant, athlétique, cette espèce de jeune dieu grec monté sur la croix.
Voilà.
Voilà, ça c'est sublime, on est bien d'accord. Et d'ailleurs, il y a une logique aussi, la beauté divine, elle doit se refléter dans un corps qui est beau. C'est parfaitement circulaire et c'est merveilleux. Mais au fond, il refuse ce type de beauté qui tourne parfois à la formule, à la recette, pour plonger dans cette enquête, à mon sens, c'est une grande enquête que mène Rembrandt, une enquête visuelle, c'est une quête artistique, c'est une quête personnelle, spirituelle, on le sent, il y a tous ces registres qui sont en cause, et ça donne cette image nouvelle, cette image fondamentalement neuve.
Tout à l'heure, vous avez dit le mot météore, mais un météore, ça passe vite. Est-ce que Rembrandt a fait école? Pouvait-il faire école?
Alors ça, c'est la grande question de tous les innovateurs, de toutes les personnes qui soudain se lèvent se dresse et parle et prononce des mots nouveaux, généralement après, la parenthèse se referme. Caravage, c'est un cas aussi. On voit bien l'innovation caravagesque qui est extrêmement localisée dans le temps. Alors, il y a quelques foyers à Utrecht, par exemple, dans le nord de l'Europe, mais ça ne dure pas, c'est très vite. C'est une espèce de fusée, de flambeau, et ensuite, l'oxygène manque parce que la grande personnalité artistique a disparu. Rembrandt, c'est pareil. On voit bien après qu'il y a des artistes qui ont été happés par le sillage de cette grande figure historique qui œuvrait à cette nouveauté et qui se sont mis un peu à essayer de faire des Christs qui ressemblaient au Christ de Rembrandt, fait par Rembrandt dans l'atelier de Rembrandt. Mais simplement, ce sont des Christs au deuxième degré. Ce sont des œuvres peintes après avoir vu les Christs de Rembrandt. Mais ça n'est plus, ça n'est pas ce que faisait Rembrandt, c'est-à-dire un Christ d'après nature, d'après un modèle vivant. Et ce Christ au carré, si vous voulez, ce Christ au deuxième degré, en fait, il est déjà lui-même de la formule, de la recette. Et de toutes les manières, on a essayé de réunir ces œuvres parce qu'elles ont un intérêt, je dirais, elles témoignent à leur façon de cette audace de Rembrandt parce qu'elles sont très très peu nombreuses. Et au fond, la réponse à votre question est non, ça n'a pas fait école.
Et même à l'intérieur de l'œuvre de Rembrandt, je ne suis pas sûr que ce ne soit pas une exception aussi.
Alors en fait...
Un passage ?
Alors c'est un nœud, j'ai envie de dire. Depuis, donc on l'a dit, depuis ses jeunes années de peintre, il s'intéresse et il affronte la figure du Christ, sa représentation, la question de sa représentation. Et je pense qu'à un moment, l'idée du modèle vivant, ça a été pour lui une solution au problème. On le sent, ce jeune homme qui a une trentaine d'années à Amsterdam au XVIIe siècle, il est confronté à ce problème, à cette impasse. Comment voulez-vous faire mieux que Durer, que Mantegna, que Lucas de Lède, que ces monstres sacrés, ces espèces de figures-là qui bouchent l'horizon, ces grands maîtres de la Renaissance qui, pour lui, encore une fois, ont l'âge de ses grands-parents à peu près. Donc bien sûr, on peut essayer de rivaliser, on peut essayer d'atteindre ce niveau. Mais lui, ce qu'il veut, c'est faire autre chose. Et donc, il va contourner l'obstacle. Et ce modèle vivant, pris certainement dans la communauté juive, ça, c'est nouveau. Ça, Durer, il n'a pas fait. Mantegna, jamais. Lucas de Lède, n'y avait pas pensé. Et donc, c'est une trouvaille. C'est presque un truc. Mais un truc génial. Vraiment, c'est un moyen pour lui de réinventer les choses, de revenir aux sources. Et tout cristallise. Parce que ça satisfait, ça répond à cette grande ambition artistique, devancer, surpasser les maîtres de la Renaissance, en même temps que ça satisfait la question de la représentation réaliste d'un Christ, de ce Jésus qui était juif, et finalement ça fait accéder à une forme de beauté à la fois audacieuse et nouvelle, parce qu'il y a une beauté de cette nouvelle figure christique. On le sent, cet homme commun, ce petit homme presque chétif, ou du moins qui n'est plus ce grand et bel athlète, eh bien, il y a un rayonnement. Et je pense que tout le monde voit ça dans notre rotonde, dans notre hémicycle, dans l'exposition au Louvre.
Oui, la dernière salle, le Saint des Saints,
alors, en tout
c'est
cas,
un moment d'émotion intense.
C'est une force émotionnelle rare. Parce que l'idée, c'est tout simplement une beauté intérieure qui se voit.
Mais on pourrait dire que Rembrandt, pour renouveler le rôle, change d'acteur.
Voilà, mais pour arriver à dire cette simple phrase... Eh bien, il faut tout ce raisonnement et des années de recherche de la part de Rembrandt.
Merci beaucoup, mais nous n'avons pas répondu à la question que je vous avais posée tout au début. On ne va pas non plus s'étendre sur les circonstances de cette exposition. Mais pourquoi, avec deux musées américains, que va devenir l'exposition après le 18 juillet ? Va-t-elle partir à Philadelphie ? Va-t-elle après aller à Détroit ?
Alors oui, donc cette exposition, nous aurions dû le préciser d'entrée de jeu, c'est un travail d'équipe. Donc moi, je me suis occupé avec deux collègues américains, l'un à Détroit, l'autre à Philadelphie de cette exposition, depuis maintenant 4 ans. Donc on sillonne les cabinets d'art graphique, les musées, les demeures de collectionneurs particuliers qui possèdent des œuvres qui sont peut-être susceptibles de nous intéresser pour la question Rembrandt et la figure du Christ. Et nous avons ouvert à Paris. L'exposition dure 3 mois jusqu'au 18 juillet, et puis ensuite elle se transporte aux États-Unis, Philadelphie et Détroit. Alors pourquoi ces deux musées-là ? En fait, je dirais c'est tout simple. C'est d'abord une rencontre avec ses collègues, des amitiés qui sont nées et qui, je pense, vont durer. Et puis, ces musées possèdent certaines œuvres qui sont au cœur de l'exposition, donc certaines de ces têtes du Christ. Et puis nous, n'est-ce pas ? Eh bien, nous avons les pèlerins d'Emmaüs, la vedette, le chef-d'œuvre de l'exposition, qui vient d'être restauré, donc qui est à lui tout seul une révélation, et autour duquel gravite, comme autant de planètes, l'ensemble des têtes du Christ, par Rembrandt.
Et puis, il y a une pièce magistrale pour les eaux-fortes de Rembrandt. Je l'ai dit aussi en introduction, c'est la pièce au sang florin.
La pièce au sang florin, alors ça, c'est une gravure célébrissime de Rembrandt. C'est peut-être celle qu'on a tous vue un jour reproduite quelque part. Mais l'exemplaire, le tirage, l'impression qu'on présente au Louvre dans l'exposition, lui, il est unique. Il vient de la Bibliothèque nationale. C'est une petite découverte, puisque au bas de l'image gravée, vous avez manuscrit un poème contemporain en néerlandais du XVIIe siècle, qui est ce qu'on appelle une ekphrasis, c'est-à-dire une description de l'image. Donc le poème dit en vers mesurés ce qui se passe dans la scène. Le Christ est au centre, les malades affluent vers lui, les pharisiens sont à gauche, il y a un chameau à droite. C'est une description. Et le premier vers de ce poème, qui est signé Vatalos, qui est l'un des poètes contemporains, donc ça c'est très important, on a identifié le poète, quelqu'un qui était en lien avec Rembrandt. Ce premier vers, il dit « Voici, tel qu'en lui-même, le Fils de Dieu, comme l'a peint et dessiné Rembrandt d'après nature. »
De nouveau d'après nature.
Et c'est l'expression d'après nature en néerlandais ancien qui est strictement la même qu'on retrouve dans l'inventaire de la banqueroute de Rembrandt en 1656. Et quand on sait quand même que tout ce vaste échafaudage reposait sur cette tête d'épingle de la mention dans l'inventaire de 1656, la banqueroute de Rembrandt, on se dit tout de même, il fallait mettre ça, puisque voilà une nouvelle pièce au puzzle et même une nouvelle pièce, une nouvelle preuve au dossier, hein, à charge. Il y avait un modèle vivant.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à cette énigme des historiens de l'art et même aussi des amateurs néophytes, tous touchés par cette superbe exposition. Merci Jérôme Prieur, merci Blaise Ducos.
Merci à vous. Merci.